Méditation biblique, au micro, Jacques Marchal. Chers amis, bonjour. L'athéisme pourrait être qualifié d'émotivité philosophique, niant d'une façon très dogmatique l'existence de toute divinité. Ce courant d'opinion est loin d'être le produit d'un XXe siècle intellectuellement sorti du cocon. Il était déjà l'apanage d'une certaine couche de la société au premier siècle de notre ère. Ceux qui, comme nous, croient en Dieu, ont affirmé leurs convictions profondes de cœur et d'esprit, non seulement par les preuves extérieures évidentes de son existence, mais également par ce qu'affirme la Bible. Ce qui nous entoure a bien été créé par l'Éternel, ainsi d'ailleurs que l'homme lui-même. Dans son épître aux Galates, l'apôtre Paul parle de quatre éléments extrêmement significatifs concernant Dieu. Il est un père, on peut lui plaire, son Église existe bien, l'omniscience lui est propre. À partir de l'acceptation de ces quatre principes, l'être humain peut voir se développer en lui un respect qui tôt ou tard va se transformer en obéissance totale et découvrira finalement que ce que doit tout homme est de craindre Dieu et d'observer sa volonté. Là se trouve le secret du bonheur terrestre et de la félicité éternelle. Durant notre entretien, nous serons très souvent en contact avec l'épître de Paul aux Galates. La première chose que l'apôtre établit, il le fait à trois reprises dans les cinq premiers versets, c'est que Dieu est un père. Il affirme en quelque sorte cette chose merveilleuse qu'est la paternité de Dieu et la fraternité de tous les hommes. La notion selon laquelle l'Éternel est le père de chaque individu prévaut dans notre monde, mais cela n'est pas tout à fait exact. Dieu, bien qu'ayant créé l'esprit de l'être humain, quel qu'il soit, lui a également donné la capacité de choisir. D'aucuns prennent le parti de verser dans le péché et de servir Satan. L'idée que tous les hommes entretiennent les mêmes relations avec leur Créateur n'est pas exacte. Certains sont reconnus comme étant enfants de Dieu et agissent en conséquence, et d'autres pas. Les enfants de Dieu sont bénis par leur souverain et savent que sa promesse d'étendre ses bénédictions dans l'éternité est une réalité. Pour une autre catégorie d'hommes, tout cela est vain et illusoire. Dieu est le Père de qui ? Dans le troisième chapitre aux Galates, la réponse est sans équivoque. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il est impossible d'émettre des opinions différentes quant à la manière d'être en Christ, puisque le verset suivant affirme « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Étant en Christ, nous devenons les enfants du Père Céleste. Il faut donc être baptisé en Christ pour rejoindre sa grande famille, et on ne peut échapper à une vérité aussi nette. » Le second caractère propre à Dieu dont parle Paul en Galates est le fait qu'on peut lui plaire. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, dit l'apôtre Paul, je ne serais pas serviteur de Christ. Il est donc évident que Paul cherchait à plaire à Dieu et non aux hommes. Un peu plus loin, Paul précise encore qu'il avait plu à Dieu de révéler Christ en son serviteur. Tout comme Enoch, il nous est loisible de plaire à Dieu en le servant fidèlement. Cependant, certaines des choses qui sont agréables à l'Éternel ne plaisent pas nécessairement aux hommes, comme par exemple le salut par le moyen de la prédication. Dans sa parole, le Seigneur affirme « Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Il peut donc arriver que cette prédication décidée et agréable aux yeux de l'Éternel nous paraisse déraisonnable. Elle est cependant destinée à sauver l'homme. Elle proclame la mort de Christ pour les péchés du monde. Elle annonce son ensevelissement et sa résurrection. Et elle constitue l'enseignement même de l'Évangile. Certains faits contenus dans cette prédication doivent être crus. Par exemple, cette mort, cet ensevelissement, cette résurrection du Fils, les conditions du salut. Ils sont édictés, c'est-à-dire la foi, la repentance, la confession de foi et le baptême en Christ pour le pardon des péchés. De tout ce qui précède découle des promesses infiniment précieuses. Pardon, rédemption, justification, paix, joie et espérance. Quel merveilleux programme pour le genre humain. Il plaît à Dieu que ceux qui ont obéi à l'Évangile et sont par conséquent devenus enfants de Dieu, de travailler à leur propre salut. aux chrétiens de la ville de Philippe, l'apôtre Paul spécifie bien, « Bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Dieu agit dans le cœur de ses enfants par les avertissements et les promesses de sa parole. Un profond désir de lui plaire se développe en eux par amour. C'est pourquoi ils l'adorent régulièrement, vivent une existence pure, saine, et travaillent pour lui avec zèle et détermination. Le peuple de Dieu sait qu'il plaît à Dieu lorsqu'il lui est fidèle, mais qu'il a le contraire en horreur, car il lui dit, « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Troisièmement, passons brièvement en revue l'enseignement divin à propos de son Église. Paul, après avoir décrit son genre d'existence avant de devenir chrétien, cite l'Église de Dieu. Il dit notamment, toujours aux Galates, « Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comme je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. » Le mot « Église » est mentionné plus de 100 fois dans le Nouveau Testament. Le chrétien y trouve sa pleine identité, c'est-à-dire l'appelé hors des ténèbres du monde pécheur est entré dans la lumière de la vérité. L'Église appartient de plein droit à Dieu, puisque c'est lui qui en a prévu et accompli l'édification. Dans l'Épître aux Éphésiens, on peut lire que Dieu a créé toutes choses afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Cette Église que l'Éternel avait prévue n'est autre que celle dont Jésus parlait en ces termes, « Je bâtirai mon Église », celle que le Fils de Dieu s'est acquise par son propre sang, celle qui fut sanctifiée par les paroles, celle qui prédit Ésaïe comme devant être la maison ou famille de Dieu. D'innombrables personnes, se trompant inconsciemment, pensent qu'il n'existe aucune relation de cause à effet entre l'Église et le salut. Ces gens sincères sont persuadés qu'on peut être sauvé sans jamais avoir fait partie de l'Église. Si ces conceptions étaient vraies, il est évident que, premièrement, Dieu aurait alors prévu quelque chose d'accessoire, de futile. Deuxièmement, que Jésus aurait versé inutilement son sang sur la croix pour acquérir une vue de l'esprit, une réalité. Et troisièmement, que le Fils de Dieu aurait promis de bâtir un édifice spirituel inutile au salut de l'humanité. Le fait qu'il existe tant d'églises fondées par des hommes, dont les structures et les doctrines sont issues de l'homme, et adorant Dieu selon l'imagination de l'homme, ne représente malgré tout pas une raison suffisante pour baisser les bras et ignorer l'Église prévue et fondée par le seul vrai Dieu. Où sont ces hommes et ces femmes formant cette Église? Partout où règne le strict respect de la volonté sacrée de Dieu, partout où l'on pratique les enseignements de son Fils bien-aimé, partout où rien n'y est ajouté ni retranché, partout où des êtres humains sont sauvés, convertis, selon la volonté divine, après avoir cru s'être repenti, c'est-à-dire avoir changé de vie, d'attitude, de disposition, partout où ils ont confessé leur foi en Jésus-Christ pour enfin être baptisés, immergés pour le pardon de tous leurs péchés passés. Nul n'est converti par la foi seule, par le repentir seul, par le baptême seul. Cela forme un tout, une progression vers le salut, et aucune de ces étapes vers ce salut ne peut être dissociée des autres. Cette doctrine était observée par les premiers chrétiens, sauvés par l'autorité de Jésus-Christ. Ils vivaient dans la joie et la simplicité de cœur. Ils formaient une immense famille que soudait l'amour pour Dieu, la compassion pour le prochain, la douceur de caractère et la fidélité indéfectible aux instructions du Nouveau Testament. Ils étaient vraiment des chrétiens. Mais croyez-le ou non, ils existent encore de nos jours dans le monde entier. Quatrièmement, Dieu est omniscient. Et l'Épître aux Galates exprime avec chaleur et sincérité la capacité qu'a l'Éternel de connaître l'être humain à fond, son cœur, ses motivations, ses actions les plus infimes. Une simple phrase de Paul nous fait d'emblée comprendre ce principe. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. Comment l'aurait-il pu, lui qui, guidé par le Saint-Esprit, rapportait tout ce qui lui était dicté? Mais cela nous fait comprendre combien nous avons besoin de prendre conscience du fait que Dieu nous connaît entièrement, complètement, constamment. L'Épître aux Hébreux le dit bien. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert. Ne nous leurrons pas en croyant pouvoir agir comme Jonas, qui croyait à un Dieu local en échappant à la vue de Dieu, en changeant d'endroit pour brouiller nos pistes. Jonas s'aperçut très vite que, comme le dit le livre des Proverbes, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. David, lui aussi, en savait long sur cette nature toute spéciale de Dieu lorsqu'il écrivit « Où irai-je loin de ton esprit? Où finirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je dis « Au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. » Il est impossible d'échapper à la vue de Dieu. Nul ne peut résister à la volonté du Créateur ou le rejeter sans s'exposer à la souffrance, à la honte et à la destruction éternelle dans le futur. Les Écritures le proclament bien haut. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. On ne peut non plus ignorer la parole de Dieu tout en échappant aux conséquences du péché. Le chapitre 5 de l'Épître aux Galates parle sans embâge du péché et de ses conséquences. Écoutez plutôt. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Nous devrions lire cette liste avec soin et en faire une analyse lucide. L'homme peut soit servir Dieu, soit verser dans le péché. Le choix s'impose à tout être humain. Mais quel sera le vôtre ? Ce programme vous était offert par Méditation Biblique. Au micro, Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Et je vous répondrai personnellement. Je puis également vous envoyer le texte intégral de cette causerie sans aucun engagement de votre part. Il suffit d'écrire à Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 3130 Palma, je répète, Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 3130 Palma. Au revoir, à mercredi prochain. Demain, que le Seigneur garde. Centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi et surtout de pratique est le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ, seul, ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle n'enseigne pas.